de Michael Ponche pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Il est 10h10 à Brasilia. L'inquiétude au Brésil. Après une double disparition en pleine forêt amazonienne, on va s'y arrêter avant d'évoquer le conflit Mapuche, épine dans le pied du président chilien Gabriel Boric. Ce sera avec notre invité du jour. Et puis bien sûr le journal de la première, Serge Masson, parle de ce colloque international sur l'esclavage. Il s'ouvre aujourd'hui en Martinique.
Un colloque pour revisiter la façon d'aborder l'esclavage et pour décoloniser les mentalités contemporaines.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes, Serge. Et bienvenue à tous. Toujours aucune trace du journaliste britannique et du chercheur spécialiste des peuples autochtones qui ont disparu le week-end dernier au Brésil. Dom Phillips et Bruno Pereira, récemment menacés, étaient en mission dans la jungle amazonienne, dans la vallée du Javari, près de la frontière avec le Pérou. Une région réputée pour ses invasions illégales et trafics en tout genre. Une bien mauvaise idée que de s'y aventurer, selon le président Bolsonaro.
Vraiment, deux personnes seules sur un bateau dans une région comme ça, complètement sauvage, c'est une aventure peu recommandable. Tout peut arriver, il se peut qu'il y eut un accident, ils ont pu être exécutés, tout est possible. J'espère et je demande à Dieu qu'on les retrouve sains et saufs rapidement.
Cette vallée du Javari que connaît bien Fiona Watson de l'organisation Survival International. Elle avait travaillé dans le passé avec les deux hommes disparus.
Je pense que Bruno représentait effectivement une menace pour ceux qui tentent d'envahir illégalement cette vallée de Javari. Et Dom Phillips était une voix internationale. Il a réalisé de nombreux reportages dans cette région. Il dénonçait les occupations illégales et les crimes commis en Amazonie. Donc, lui aussi est une cible. Le climat politique est devenu très hostile envers ceux qui défendent les peuples autochtones. Le président Jair Bolsonaro, depuis son arrivée au pouvoir, a souvent pris position contre les communautés indigènes. Il tente d'affaiblir leurs droits. Avec cette politique, il offre une sorte de blanc-seing à tous ceux qui souhaitent s'emparer de manière illégale des territoires indigènes et de leurs ressources naturelles. Ils pensent qu'ils ont les mains libres pour envahir ces zones et même le droit de tuer des personnes. Ce sont des régions sans foi ni loi et je pense que c'est une situation voulue par le président. Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans une année électorale. La présidentielle aura lieu en octobre. Traditionnellement, il y a beaucoup de violence avant ces scrutins. Car pour se faire élire ou réélire, les candidats encouragent les actions illégales en Amazonie. C'est une position qui permet de gagner des votes.
Fiona Watson de l'organisation Survival International avec Harim Lipold. Eux ont rejoint la trop longue liste des kidnappés quotidiens en Haïti. Il y a un mois, tout juste, 8 citoyens turcs ont été enlevés, victimes des gangs qui gangrènent Haïti. Mais hier, Amélie Baron, on a appris la libération de 3 d'entre eux.
Il s'agit des 3 jeunes femmes du groupe de 8 ressortissants turcs enlevés alors qu'ils voyageaient en bus depuis Santo Domingo vers Port-au-Prince. C'est une représentante de la compagnie de transport qui a confirmé leur libération. Elles ont été, je cite, « libérées ce week-end pour raison de santé parce qu'elles étaient malades ». Le 8 mai, le puissant gang des 400 Marozo a détourné le véhicule où se trouvait un total de 12 personnes, dont ces jeunes Turcs âgés de 20 à 26 ans. Les 2 employés de la compagnie de bus, l'hôtesse haïtienne et le chauffeur dominicain, avaient été relâchés moins d'une semaine après leur rapt. Les 2 autres passagers, des citoyens haïtiens, l'ont été par la suite, après que leur famille ait payé une rançon dont le montant n'a pas été rendu public. Aujourd'hui, les ravisseurs ont donc encore entre leurs mains les 5 jeunes hommes turcs. Depuis près de 2 ans déjà, Haïti vit dans cette terreur des enlèvements et ce phénomène connaît une recrudescence effrénée. Pour le seul mois de mai, l'ONU a recensé au moins 200 enlèvements à travers le pays, principalement dans la capitale. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
9h14 à Port-au-Prince, 3 heures de moins à San Francisco. RFI. World's Voices. La ville californienne à la une de la presse américaine aujourd'hui. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Michael.
Les électeurs de San Francisco ont destitué hier leur procureur Chase Boudin, considéré comme trop progressiste dans cette ville, pourtant les plus à gauche aux États-Unis.
Oui, le vote a été organisé dans le cadre du scrutin des primaires. Rappelle le New York Times, 60% des électeurs se sont exprimés en faveur de la destitution du procureur. Le Los Angeles Times regrette que Chesa Boudin, c'est comme ça qu'on dit, Michael, soit devenu le paratonnerre dans les controverses sur la criminalité à San Francisco. Pendant les 2 ans et demi qu'il a occupé ce poste, il avait pourtant bien mis en œuvre ce pourquoi il avait été élu en 2019. Il a déclenché des poursuites contre un policier pour homicide. Il a contribué à faire libérer un homme emprisonné à tort pendant des décennies. Il a refusé de condamner les petits délinquants toxicomanes à des peines de prison, préférant des mesures de soins. Mais la campagne de destitution menée par les conservateurs et la police a dépeint Chess Abouddin comme un procureur indulgent par rapport à la criminalité et qui ne se soucie pas de la sécurité publique. Cette campagne a lié ses politiques de réforme pénale à une vague de crimes très médiatisée, rappelle le journal.
Mais ce ne sont pas seulement, Stéphanie, les conservateurs qui ont eu la tête de ce procureur.
C'est en tout cas l'avis du San Francisco Chronicle. Un pourcentage non négligeable de membres de la classe ouvrière qui s'inquiètent sincèrement d'être la cible de la criminalité ont également voté pour la destitution de Chess Abouddin. Le Washington Post, de son côté, conclut « À quelques mois des élections de mi-mandat, les démocrates vont devoir se lancer dans un périlleux numéro d'équilibriste. Ils vont devoir défendre la nécessaire réforme de la justice pénale tout en se montrant ferme dans la lutte contre la criminalité. »
Équation difficile, en effet. Une autre élection à venir, Stéphanie, la présidentielle en Colombie, second tour, le 19 juin, et les deux qualifiés sont au coude à coude dans les sondages.
Ouais, le dernier sondage prévoit 47,8% des voix pour le candidat indépendant Rodolfo Hernández et 46,8% pour le candidat de Gustavo Petro, rapporte le site internet de la radio RCN qui a commandé l'enquête. Deux points sont à souligner, Michael. Premièrement, le populiste Hernández est en perte de vitesse alors que le progressiste Petro reste stable dans les intentions de vote. Et deuxièmement, les électeurs qui prévoient voter blanc sont de plus en plus nombreux. Il faut dire que dans le système électoral colombien, le vote blanc est comptabilisé, Michael.
Mais le vote blanc n'a pas le pouvoir de provoquer un nouveau scrutin. Le candidat qui aura le plus de bulletins à son nom l'emportera, explique aussi également aujourd'hui la presse. Réponse donc le 19 juin. Merci beaucoup, Stéphanie.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Gabriel Boric, élu en fonction depuis près de 3 mois à la tête du Chili, et le voilà rattrapé par l'épineux dossier Mapuche du nom de la principale communauté indigène du Chili qui revendique des terres perdues au 19e siècle. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jimena Obregón Itura, professeur des universités en études hispano-américaines à l'université Rennes 2. Bonjour.
Bonjour.
Ce conflit a pris une tournure violente depuis une vingtaine d'années, à tel point que dernièrement, le 16 mai, le gouvernement Boric a annoncé le retour des militaires dans le sud du pays où vivent le plus grand nombre des Mapuches. Un état d'urgence prolongé le 30 mai pour 2 semaines. Jimena Obregón Itura, en quoi cela consiste-t-il? Une volte-face inédite de la part du nouveau président?
Oui, c'est une décision qui a dû être très difficile à prendre et surtout à faire assumer par les appuis politiques du gouvernement Boric, car elle va vraiment à l'encontre de sa volonté affichée de trouver un terrain d'entente avec les organisations mapuches, y compris celles qui se déclarent en lutte. Et son intention de négocier était très explicite, très appuyée, et il avait dit être disponible à mettre sur la table des négociations des questions épineuses, comme par exemple la question des entreprises forestières et leur implantation en pays mapuche.
Très à l'encontre, donc, en effet, de ce qu'il avait défendu, même durant sa campagne. Est-ce que l'on peut dire, donc, que Gabriel Boric revient et marche dans les pas de son prédécesseur, Sébastien Piñera?
J'aurais envie de répondre oui et non. Oui, parce qu'en devenant chef d'État, Boric est devenu responsable de la sécurité publique et que la situation de blocage récurrent de la route principale à cet axe nord-sud commençait à poser des grands problèmes. Dans un pays comme le Chili, c'est un axe routier fondamental. D'un autre côté, non, parce que le gouvernement accompagne l'annonce de l'état d'urgence d'un projet qu'ils appellent El Buen Vivir, le bien vivre, et qui comporte un certain nombre d'éléments qui avaient été déjà mis en place par d'autres gouvernements, mais aussi des éléments nouveaux. Donc je trouve que ce programme du Buen Vivir est intéressant. Je trouve qu'il veut accélérer le processus de restitution des terres. Et aussi, ce programme les a sortis d'une politique publique en matière de santé, en matière d'eau potable, et d'autres. Et les moyens qui sont annoncés, les moyens ne sont pas négligeables.
Donc une décision, vous le mentionniez, qui a été, on le comprend, contrainte, il n'avait pas véritablement d'autre choix. Que l'on saisisse bien, quelle forme cette revendication territoriale mapuche prend-elle précisément ?
Je pense que c'était qu'il n'avait pas d'autre choix ou que les choix étaient limités ou qu'il n'y avait pas de bon choix. Le blocage des routes n'était pas seulement le fait d'organisations mapuches qui ont opté pour des actions directes. On a constamment des incendies de camions, des camions qui transportent le bois vers les ports d'exportation.
Je le précise, des entreprises forestières privées qui sont installées sur les terres des mapuches.
Oui, voilà, des infrastructures de ces entreprises forestières. Donc, il y avait un certain nombre de protestations, aussi des camionneurs dont le mode d'action principal est le blocage de route et qui réclamaient l'intervention de l'État pour les protéger. Donc, la situation était devenue vraiment très tendue. À certains moments, les ambulances ne pouvaient même plus passer. Alors, le gouvernement a opté pour cet état d'urgence qu'il a voulu limiter aux axes de communication, les axes principaux de communication. Donc, l'armée n'a pas été déployée sur toute la région. Elle n'est pas actuellement dans les zones rurales où se trouvent les communautés mapuches.
La contestation, elle est accompagnée aussi, on le disait, de violence. Est-ce que cet usage de la violence est accepté par tous parmi les mapuches ?
Non, le monde mapuche est un monde très divers, très pluriel, et la revendication territoriale n'est pas toujours violente. Il y a des mécanismes qui permettent de la restitution de terres aux communautés par des voies, disons, pacifiques, et elles sont utilisées, mais certaines organisations considèrent insuffisantes ces restitutions des terres, et ils ont fait le choix des actions directes dans une stratégie de contrôle territorial.
Ça veut dire qu'il y a plusieurs branches, plusieurs voies, aucun leadership véritablement défini dans cette communauté mapuche, et que donc le gouvernement Boric aujourd'hui se doit de trouver un compromis avec certains qui ne sera pas, on le sait, accepté par d'autres. Finalement, c'est une ligne de crête pour lui très difficile à tenir.
Oui, il y a des organisations, il y a en particulier la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco, et qui est certainement le groupe le plus connu, mais il y a aussi d'autres organisations de contrôle territorial qui signent des communiqués après les actions de sabotage. La CAM a toujours revendiqué ne s'attaquer qu'au grand capital et non pas aux personnes. Mais la situation est quand même très violente, et il y a eu des victimes sans que pour l'instant la justice ait pu éclaircir les responsabilités. Mais ce n'est pas un mode d'action qui est généralisé à tout le monde mapuche, même s'il y a certainement un appui tacite d'une partie des communautés mapuches, et qu'il peut y avoir des attaques avec des groupes cagoulés de 70 personnes. Donc les experts pensent qu'il y aurait 400-500 militants armés capables de faire ces actions.
Des pourparlers territoriaux avec l'ONU ont été annoncés. Est-ce que, selon vous, cela peut être une porte de sortie, quelque chose qui pourrait apaiser la situation ?
Oui, c'est très intéressant parce que dans ces annonces d'El Buen Vivir, il y avait des choses nouvelles et intéressantes, dont la création d'un ministère spécifique qui se chargerait des questions indiennes, et cette question de l'ONU, mais qui est intégrée dans une problématique singulière, la question des parlamentos. Il s'agit d'une pratique que j'ai beaucoup étudiée pour la période coloniale. Il s'agissait d'assemblées hispano-indiennes qui pouvaient réunir des milliers de personnes et qui permettaient d'établir des accords, des pactes entre les autorités de la couronne espagnole et les nombreux chefs mapuches. Le gouvernement Boric propose de revisiter en fait cette instance de négociation. Ça avait déjà été fait dans les années 90, à la fin de la dictature, et le gouvernement Boric sollicite de plus un accompagnement de l'ONU et propose de mettre en place ces parlamentos dès juillet 2022, donc dans un mois.
Juillet 2022, justement, je rebondis, ce sera ma dernière question, Ximena Obregón-Itura. L'Assemblée constituante, qui est en pleine finalisation d'une nouvelle constitution, doit rendre son texte, qui sera ensuite soumis en septembre à référendum. Et même question, là aussi, ce climat référendaire, est-ce qu'il peut être une porte de sortie pour Boric?
Le sort de son gouvernement est certainement très lié à l'approbation du nouveau texte constitutionnel. Le non serait un grave échec, mais il n'est pas non plus sûr que le oui suffise à résoudre tous les problèmes que rencontre ce gouvernement. En grande partie hérité des gouvernements précédents, mais aussi avec des contradictions qui semblent s'accentuer depuis son arrivée au pouvoir. Et en particulier, c'est le groupe qui n'accepte pas la légitimité de l'État sur leur territoire et qui n'accepte pas non plus la légitimité de cette convention constituante.
Bien que la première présidente ait été une femme mapuche.
Une femme mapuche qui, comme un certain nombre de représentants mapuche dans cette assemblée constituante, ont joué cette carte et ont fait avancer beaucoup de revendications mapuches par cette voie-là. Mais elle n'est pas la voie de tous les mapuches.
Une communauté plurielle, hein, en effet. Vous le disiez, Ximena Obregón-Itura, professeur à l'université Rennes 2. Merci pour votre éclairage.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Serge Massot, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
Et à la une en Martinique, 3 jours pour décoloniser les mémoires de l'esclavage.
Oui, c'est l'intitulé de ce colloque international sur l'esclavage qui se déroule à l'Université des Antilles, campus Schœlcher. Ce colloque se propose d'aborder la manière dont les mémoires de l'esclavage pourraient être formulées ou reformulées afin donc de décoloniser les esprits et les mentalités contemporaines. Écoutez Benaoud Alebdé, il est professeur à l'Université du Mans et spécialiste de littérature coloniale et postcoloniale.
Il est important de poser la question en tant que chercheur pour voir comment on doit relire l'esclavage, non pas juste comme une histoire passée et qui n'existe plus, mais comme une histoire qui a un lien avec le présent. Ce présent, comment nos contemporains, nous-mêmes, devons relire cette histoire, la traite d'esclaves, cette histoire tragique. Il faut en sortir pour justement diminuer les traumas et faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur peau aujourd'hui par rapport à toute cette question. De génération en génération, la traite des esclaves a marqué les esprits, a marqué des familles entières. Ça se transmet, par exemple, aux États-Unis. Tout cela pose des questions. À partir de là, nous devons poser des chemins de réflexion pour que l'on puisse avancer et voir comment on doit décoloniser justement les esprits pour changer la situation actuelle.
Des propos recueillis par Fabrice Théodose. En Martinique, toujours, un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle cette nuit à Fort-de-France, touché au ventre et à la tête par un homme qui circulait à moto. C'est plutôt inattendu, mais le Rhum guyanais est une victime collatérale de la guerre en Ukraine. C'est l'Ukraine qui fournit les bouteilles en verre qu'utilise la Rhumerie Saint-Maurice, mais les usines en question ont été bombardées et la Rhumerie estime qu'elle va manquer de bouteilles dans un mois. Des solutions sont à l'étude pour chercher des fournisseurs dans la région, mais ce n'est semble-t-il pas si simple. Écoutez Ernest Prévost, le patron de cette Rhumerie guyanaise, au micro de Myriam Poney.
Il y a le Brésil, il y a les États-Unis, pourquoi pas, sauf qu'on n'a pas de caboteur qui fasse cette rotation. La seule compagnie qui le fait en passant par Port of Spain, c'est encore la CGM-CGM. Je sais que le Grand Port Maritime est en quête d'un caboteur qui pourrait effectivement faire cette desserte. La CGM-CGM vous dit que dès que la ligne Guyane est déficitaire. Donc ils le font parce qu'ils sont engagés là-dessus. Mais n'empêche qu'ils ne nous font pas de proposition de pouvoir nous accompagner dans notre développement, puisque vous savez, on manque d'industrie en Guyane, et sans les industries, on peut difficilement penser que la Guyane va se développer.
Et puis ce n'est pas vraiment une surprise, plutôt un triste record. La Guadeloupe est le département français qui recense le plus de morts liées à la Covid-19 durant ces 2 années de pandémie. Et juste derrière se trouve la Martinique. C'est le résultat d'une étude menée par le CHU de la Guadeloupe. Fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci beaucoup Serge Massot. À vous et aux équipes de La Première qui refermaient donc comme chaque jour, bien sûr, ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Claude Battistin. Vous pouvez nous retrouver, vous le savez, sur les réseaux sociaux, commenter l'actualité aussi par exemple sur Twitter, @RFI Amérique. Je vous dis bonne journée à tous et à demain.
Alèche, le lauréat.